Comment enseigner le doute sans tomber dans le relativisme ? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Depuis une dizaine de jours, la plupart des élèves et des enseignants français peuvent lire la presse quotidienne nationale sans rien avoir à débourser. La plateforme Lire l'Actu met à leur disposition en ligne les principaux titres, de Libération, Figaro, en passant par Les Échos ou encore Le Monde. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, en avait eu l'idée après les attentats de janvier 2015 pour lutter contre la désinformation et les théories du complot. Alors, ce nouvel outil doit aider l'école à remplir une de ses missions devenues essentielles, à savoir développer l'esprit critique chez les élèves. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'a été conçue l'éducation morale et civique, mise en place à la rentrée 2015, un espace de débat, de confrontation sur des sujets de société notamment, pour favoriser l'autonomie des enfants, leur permettre de démêler le vrai du faux. Mais aiguiser l'esprit critique, éduquer à l'incertitude, peut s'avérer un terrain glissant. Comment faire pour que cette incitation à la remise en question ne se retourne pas contre ceux qui enseignent les savoirs et contre les savoirs eux-mêmes ? Par exemple, un élève qui remet en cause la théorie de l'évolution exerce-t-il son droit légitime à l'esprit critique ? Alors, comment enseigner le doute sans tomber dans le relativisme ? C'est la question que nous allons poser ce soir à Elena Pasquinelli. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse en philosophie en sciences cognitives, membre de la Main à la Patte, qui est une fondation pour l'éducation à la science, qui vient de lancer un projet Esprit scientifique, Esprit critique, qui prendra pleinement son envol à la rentrée 2017. Enfin, vous avez déjà pas mal travaillé sur le sujet, puis vous aviez publié l'an dernier aux éditions Le Pommier, Mon cerveau, ce héros, mythes et réalités. Je trouve que vous avez justement en face de vous quelqu'un qui a eu une première carrière de neurobiologiste. C'est Daniel Favre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été ensuite professeur en sciences de l'éducation à l'université de Montpellier. Vous êtes tout juste à la retraite, ça date d'il y a quelques jours. Et vous venez de publier, c'est une des raisons qui nous a donné envie d'ailleurs de faire cette émission ce soir, éduquer à l'incertitude. J'ai repris justement cette expression dans mon lancement. Élèves, enseignants, comment sortir du piège du dogmatisme? C'est publié chez Duno. On verra que quand vous parlez de dogmatisme, il s'agit aussi bien de dogmatisme religieux que de dogmatisme scientifique. Et puis notre troisième invité, c'est Gérald Bronner. Bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, professeur à l'Université Paris Diderot, plusieurs ouvrages, mais je mentionnerai celui qui me semble correspondre le plus à la discussion de ce soir. C'est votre fameuse Démocratie des crédules, publiée au PUF. C'était en 2013. Alors j'imagine, mais je me trompe peut-être, que parmi vous trois, il y a un consensus pour dire que l'école doit notamment servir à aiguiser l'esprit critique des élèves. Je fais un tour de table rapide avec mon regard pour voir s'il y a des objections à cela, manifestement pas. Mais est-ce qu'on se pose la question de l'intérêt de l'enseignement de l'esprit critique auprès des élèves? Ça doit servir à quoi? Est-ce que ça doit servir à démêler le vrai du faux, à éviter les manipulations, à remettre en cause des dogmes? Ça sert à quoi le fait de développer l'esprit critique à l'école, Elena Pasquinelli?
Je pense que ça sert à beaucoup de choses et à beaucoup de choses du quotidien. Pas trop loin de la vie des élèves, pas trop loin de la vie des enseignants, de la personne moyenne. Les théories du complot peut-être sont un peu loin, surtout de la vie des élèves de tous les jours. Je pense qu'avoir un esprit critique veut dire savoir se régler, avoir les outils pour bien penser différentes choses de son quotidien. Je remarque un certain effet. Est-ce que je sais m'interroger sur quelle est la cause qu'il a produit? Est-ce que je sais ne pas me tromper en prenant une simple corrélation, par exemple, pour une cause? Ça va de la publicité à juste s'auto-tromper soi-même. Donc, je pense que ça va bien au-delà des grandes questions ou des questions très compliquées sur lesquelles on a tendance à raisonner aujourd'hui. C'est vraiment du quotidien de la vie de tous les jours.
Vous êtes d'accord avec ça, Daniel Favre? Il faut peut-être avoir une approche un peu modeste quand on tente de faire développer l'esprit critique face à des élèves.
Alors, je ne sais pas si c'est en termes de modestie, mais il me semble... Enfin, moi, je vois l'esprit critique comme une des conditions pour permettre à la pensée de rester en mouvement, pas rester prisonnière d'elle-même. Et donc, il me semble que le plus tôt possible, développer l'esprit critique dans la mesure où on permet à l'enfant d'avoir des feedbacks sur sa propre pensée, d'avoir des feedbacks sur ce qu'il ressent, ça pourrait lui permettre donc de voir quand sa pensée s'ouvre, quand sa pensée ferme.
Ça veut dire quoi, le plus tôt possible? Est-ce que c'est, par exemple, dès la maternelle qu'il faut faire ces exercices-là? Parce qu'on peut aussi imaginer que les enfants ont besoin de sécurité et que la sécurité, elle se trouve aussi dans les certitudes, dans le fait que des adultes leur apportent des réponses plutôt que de leur soumettre, de les inciter à avoir des interrogations.
Oui, je pense que essayer de contrer le biais de confirmation, par exemple, de faire des généralisations abusives, peut commencer très tôt. Je pense à des enfants qui, dès qu'ils savent parler, j'ai un exemple qui me vient, c'est celui d'une de mes filles, à qui le grand-père avait dit, alors t'as réveillé tout le monde cette nuit, elle a réfléchi, a pris son temps, et elle a dit, est-ce que je t'ai réveillé toi? Alors le grand-père a dit non, elle a dit donc, je n'ai pas réveillé tout le monde. Et il me semble donc qu'il n'y a pas d'âge limite à partir du moment où le langage est là pour développer cela et montrer qu'il y a un piège à vouloir faire des généralisations. On se piège soi-même et une fois qu'on s'est piégé soi-même, on a des émotions, des sentiments qui accompagnent ces pensées-là. Et du coup, ça justifie encore un peu plus l'aspect cognitif de la pensée. Il y a une boucle donc par rapport à l'esprit critique, le plus tôt possible, mais dans une perspective de permettre à la personne de se réguler pour qu'elle devienne un sujet.
Alors, je ne sais pas si vous avez fait exprès d'utiliser l'expression de biais de confirmation qui faisait justement l'objet d'une étude approfondie dans le livre que j'évoquais de Gérald Bronner, mais pour répondre aussi à la même question que les deux autres invités.
Oui, bon, moi je me réfère tout simplement à un des vieux pères de la pensée critique qui est tout simplement René Descartes. Il faut se souvenir que le vieux René dans son poil pratique l'esprit critique, mais il l'exerce surtout et avant tout face à lui-même. C'est-à-dire qu'il s'interroge sur ses propres intuitions. Et à mon avis, le vrai esprit critique, celui qui n'est pas nihiliste, qui aboutit pas à une forme de nihilisme, c'est d'abord celui-ci qui s'interroge sur les processus qui nous permettent de connaître le monde. Et de ce point de vue, il faut distinguer assez fermement ce qu'on appelle l'apprentissage et l'éducation. L'éducation, c'est une partie de l'apprentissage, mais vous savez que les bébés, dès le plus jeune âge, commencent à appréhender le monde. Ils implémentent, ils installent dans leur esprit, en quelque sorte, des lois. Et notre esprit est profondément, très profondément, fondé sur la logique inductive. Ça veut dire que c'est une logique qui part de cas particuliers pour tirer des lois générales. Vous savez que cette forme de logique est très fautive, mais l'enfant, et nous avons besoin de cette logique pour en quelque sorte comprendre le monde, pour essayer d'établir des lois. Nous sommes une machine à établir toutes sortes de lois, de correspondances, de corrélations, etc., etc. Le problème, c'est que notre apprentissage se fonde sur un échantillonnage du réel. Et cet échantillonnage, il est extrêmement restreint. Donc à mon avis, la pensée critique, elle doit commencer par s'interroger sur les processus cognitifs qui nous permettent de comprendre le monde, attendu que ceux-ci sont largement adossés à la logique inductive qui peut être très fautive. Voilà.
Alors pour être capable de penser, de réussir à penser contre soi-même, contre ses propres intuitions, contre ses propres vérités, ça demande une formation. Et c'est notamment à l'éducation nationale qu'on a donné cette mission. Alors venons-en au cœur du sujet, puisque se pose, alors notamment, je dois dire, depuis les attentats de début 2015, de vraies interrogations dans le corps enseignant sur la façon de se confronter à ce que peut être, par exemple, les théories du complot. Est-ce que il n'y a pas un risque en développant l'esprit critique de devoir faire face aussi à des remises en cause de certaines vérités et de finalement presque tenir un double discours par rapport à ces contre-vérités où on dirait ben voilà, vous devez mettre en doute certaines choses mais pas toutes. Et est-ce que les élèves acceptent facilement justement ce qui pourrait apparaître en tout cas comme un double discours, Elena Pasquinelli?
Franchement, je ne pense pas. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de conflit entre la mission de favoriser l'acquisition de connaissances, qui sont des connaissances qui font partie de notre culture, ont été établies grâce à des processus de recherche de cette connaissance, processus rigoureux, par exemple ceux de la science, et le fait de développer ces capacités d'esprit critique des élèves. Mais je dois admettre que le mot esprit critique me gêne très souvent, parce qu'on l'identifie avec l'idée d'incertitude, l'idée de doute, y compris de doute cartésien. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette idée-là, dans l'approche pédagogique qu'on a pris à la main à la patte du module dont tu parlais au début, par exemple. Nous, nous, on est parti d'un autre point de vue qui était celui de l'esprit scientifique. On est parti de l'idée que, comme tu disais, on a tous des capacités cognitives, comme Gérard le disait, on part d'une base cognitive, de capacités d'observation, d'explication, qui sont tout à fait naturelles, mais qui sont aussi tout à fait limitées. Ben, la science, historiquement, c'est un peu la réponse, avec ses outils, à ses limites. Quand on n'arrive plus à bien observer avec précision, à distinguer entre les observations et les interprétations, ah, blâme, arrivent des outils de la science qui nous permettent d'aller un peu plus loin, d'être plus précis, plus rigoureux, de faire des mesures. Donc, ces outils-là sont des outils de l'esprit scientifique, mais qui peuvent outiller justement l'esprit critique. Donc, il n'y a pas de contradiction entre cette éducation à acquérir des instruments pour mieux connaître et les connaissances elles-mêmes. Il n'y a pas d'identification entre l'esprit critique et les doutes, mais plutôt entre l'esprit critique et l'outillage pour aller plus loin dans les connaissances.
Il n'y a peut-être pas de contradiction, disons, théorique, Daniel Favre, mais il peut y avoir des difficultés à appliquer, à utiliser ces outils, justement.
Alors moi, je pense qu'une véritable éducation scientifique devrait donc commencer le plus tôt possible. Et peut-être prendre un exemple qui a été fait à l'école primaire. Par exemple, comme je propose aux enseignants, ou certains l'ont pratiqué, on prend un sujet comme la pollution augmente-t-elle sur la Terre. Alors, on pourrait déjà voir qui est pour, qui est contre, qui pense que ceci est vrai ou faux. Et puis, ensuite, essayer de sentir ce qu'on pense, c'est-à-dire de dire est-ce que je suis complètement sûr qu'elle augmente ou pas complètement sûr. Et puis, dans un registre qui irait de 0 à 100, de pouvoir indiquer ma certitude que la pollution augmente. Mais c'est pas suffisant. Sentir ce qu'on pense, c'est aussi naviguer sur le pôle, le dipôle entre l'implicite et l'explicite. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on quand on parle de pollution ? La nommer. Est-ce que c'est des papiers, des odeurs ? Est-ce que c'est des bruits ?
Ça veut dire que vous donnez le même statut à la perception et à la réalité, c'est-à-dire qu'il y a une réalité qui pourrait être la pollution telle qu'elle est mesurée scientifiquement et la pollution telle qu'elle est ressentie, et pour vous c'est équivalent ?
C'est-à-dire il faut aller rejoindre l'élève là où il en est, c'est-à-dire pour lui qu'est-ce que c'est que la pollution ? Et puis après, on pourra à ce moment-là voir qu'il y a des questions peut-être scientifiques qui sont soulevées.
Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode-là, Gérald Brunner ?
Je pense que c'est la première étape, c'est-à-dire éventuellement partir de l'évidence de nos sens ou de l'évidence de notre intuition pour faire ce qu'on appelle en science simplement une forme de réduction analytique. C'est-à-dire qu'il faut aider l'élève à faire une réduction analytique, mais pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, non plus à mon avis, instiller dans l'esprit de l'élève l'idée que ses intuitions sur le monde ont forcément, elles peuvent être tout à fait objectivement fondées, mais pas forcément. Par exemple, j'ai l'impression que la Terre est plate, l'évidence de mes sens me disent que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, et non pas l'inverse. Et il faut évidemment fermement contester à l'élève ces impressions-là, mais pas le faire d'un point de vue dogmatique, l'aider à reconstruire la connaissance, parce qu'en fait, on a parlé de la science, mais la science n'est rien d'autre qu'une méthode de négociation intellectuelle avec le monde, qui permet de s'affranchir des grandes limites de notre rationalité. Donc il n'y a aucun risque en fait à apprendre ces méthodes. L'erreur qu'il ne faut pas faire, par exemple sur la question des théories du complot, j'ai été amené à le dire plusieurs fois, personnellement je ne suis pas du tout favorable à l'insertion de cours contre les théories du complot, par exemple. Je pense que ce serait une erreur. L'école n'est pas là pour opposer une narration à une autre narration. En revanche, on peut parier assez fort, je crois, être assez optimiste sur le fait que si les élèves sont dotés d'une puissance analytique concernant leurs propres intuitions, ils auront une boussole qui indique le nord et pas le sud.
Alors sur la méthode, vous n'étiez pas au courant, Gérald Brunner, mais il se trouve qu'on a trouvé sur Internet une chaîne de vulgarisation scientifique sur YouTube qui, semble-t-il, est une chaîne qui fonctionne très très bien. Ça s'appelle e-penser, c'est avec un E, c'est fait par Bruce Benharman. Et l'exemple qu'on a choisi, c'était justement autour de la question suivante. La Terre tourne-t-elle autour du Soleil ? Écoutez, il y a d'abord un petit micro-trottoir et ensuite il y a la première réponse de ce vulgarisateur scientifique.
Donc ma première question, ça va être la suivante. Selon vous, est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou le Soleil qui tourne autour de la Terre ?
La Terre qui tourne autour du Soleil.
La Terre tourne autour du Soleil.
La Terre qui tourne autour du Soleil.
La Terre qui tourne autour du Soleil.
Est-ce que je peux vous demander pour quelle raison est-ce que la Terre tourne autour du Soleil ?
Je réfléchis.
Pour quelle raison ?
Pour la gravité.
Quand vous dites pour la gravité, ce que vous voulez dire, c'est que c'est la gravité qui fait tourner la Terre autour du Soleil.
Ah non, c'est pour qu'on reste sans la Terre, en fait, pour pas qu'on tombe dans l'univers.
Tout le monde a l'air à peu près d'accord pour dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et que c'est pas l'inverse. Pour moi, j'ai deux problèmes avec ça. Le premier problème, c'est d'abord que personne n'a réussi à m'expliquer pourquoi elle tourne. Et le deuxième problème, c'est que, ils ont beau tous être d'accord, je suis pas totalement convaincu que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. c'est pas l'inverse. Moi, je me positionne en tant que terrien. Moi, je sens pas que la Terre tourne, que la Terre bouge. En revanche, quand je regarde le ciel, oui, je vois le soleil qui se déplace. Il se déplace chaque jour, et puis il se déplace même au niveau de l'horizon pendant toute l'année. Donc moi, je suis plus enclin à penser que c'est le soleil qui tourne.
Il ne s'agit que d'un court extrait de ce module qu'on peut trouver sur Internet, sur la chaîne Y Penser, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs choses qui ont déjà été évoquées dans cette discussion. À la fois l'intuition qui peut être intéressante, c'est-à-dire qu'à l'intuition on a du monde dans lequel on évolue, et la nécessité peut-être alors quoi de déconstruire toute vérité scientifique pour la reconstruire et pour la faire accepter par tous. Mais alors ça, si on demande ça aux enseignants, je veux dire, il n'y a pas assez d'une année de programme pour tout apprendre, Elena Paschidelli. C'est extrêmement compliqué.
C'est extrêmement compliqué.
Alors, à partir de quel niveau on reprend, disons, l'explication scientifique, puisque vous, c'est votre domaine, la science.
On reprend l'explication scientifique dès le début de l'école et dès le début de la maternelle. Je pense qu'on a des instruments pour proposer des explications scientifiques et des outils scientifiques aux élèves à partir de leur plus jeune âge. C'est assez naturel faire de la science pour les élèves. Ça va bien avec leur cerveau. Ils ont des bonnes intuitions. Très souvent, ils cherchent des explications eux-mêmes. Donc, il n'y a pas un âge minimal pour commencer à faire la science. Quel est l'âge minimal pour commencer à donner des explications scientifiques sur des théories complexes comme la gravitation ou comme la théorie de l'évolution? Ça dépend aussi de ce qu'on a fait avant à l'école. Si les élèves ont les instruments pour comprendre comment la science arrive à certaines théories, à construire une théorie. Qu'est-ce que ça veut dire que construire, bâtir une théorie, un argument qui est fondé sur des preuves? Ça facilite et ça avance l'âge à laquelle on peut proposer des théories complexes. On a parlé de gravitation, on a parlé des théories de l'évolution au début. Est-ce qu'on a le droit, est-ce que l'élève a le droit de dire « mais moi, j'y crois pas à la théorie de l'évolution ». Je pense que c'est une mauvaise manière de laisser poser la question.
Mais est-ce qu'il n'y a pas deux choses différentes? C'est-à-dire la gravitation ou le fait que la Terre tourne autour du Soleil, ce sont des éléments qui peuvent être prouvés scientifiquement. La théorie de l'évolution, justement, il y a le doute dans le terme même, c'est-à-dire c'est une théorie. On ne l'aborde peut-être pas de la même manière, Elena Paschinelli, non?
Oh là là, non. Là, c'est la réaction à peau immédiate, désolée, c'est instinctif. Malheureusement, comme beaucoup de mots, le mot théorie, on l'utilise d'une manière dans la vie de tous les jours, comme quelque chose d'incertain, et d'une autre manière dans la science. En science, théorie, ça veut dire un ensemble de hypothèses qui ont été bien et solidement fondées sur des faits. La théorie de l'évolution, c'en est une. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste avoir une opinion et dire « Ah, mais j'y crois pas, moi, à la théorie de l'évolution. » Et que quand on le dit, on dit « Mais c'est très bien, allons-y, voyons comment on construit une théorie fondée sur les faits. » Et ça sera difficile à ce moment-là de contester la théorie de l'évolution et d'en trouver une alternative aussi bonne.
Daniel Favre, quand un enseignant est confronté justement à des élèves qui remettent la théorie de l'évolution, est-ce qu'il doit justement leur démontrer qu'ils ont tort et que le créationnisme c'est une aberration scientifique, ou est-ce qu'il doit essayer de mettre ces deux théories malgré tout sur le même plan, quitte ensuite à démontrer laquelle théorie est la bonne? Parce que dans votre livre, ça me semble pas aussi radical, pas au sens péjoratif du terme, clair que ce que dit Elena Paschinelli.
Moi, je leur fais un petit peu d'épistémologie, et quand, par exemple, il y a des professeurs qui disent qu'ils peuvent pas enseigner ou aborder le mot évolution, je leur ai dit, il faut d'abord expliquer ce qu'est une théorie, et ça n'affirme pas ce qui vient d'être dit, mais simplement, je mets l'accent sur le fait qu'une théorie, c'est d'abord quelque chose qui va nous permettre, qui est pratique, qui nous permet de résoudre des problèmes. Et ça n'a rien à voir qu'une vérité révélée. Et une théorie continue à évoluer. La plupart des théories sont pas terminées. Comme disait Bachelard, la science avance par rectification d'erreurs. Et c'est là peut-être qu'il faut faire une distinction pour qu'il n'y ait pas de guerre interdogmatique. Une vérité, une certitude qui viendrait de la science, comme une certitude qui viendrait des religions, qui serait une vérité révélée. Puisque dans les guerres interdogmatiques, on sait très bien que c'est le plus puissant socialement qui triomphe.
Charles Brunner.
Oui, simplement, il faut fermement distinguer le fait qu'une théorie scientifique est pas toujours d'ailleurs, mais assez souvent toujours améliorable hein, dans la plupart des temps. Ça, c'est le travail habituel de la science. Et puis, mettre sur le même pied d'égalité une théorie qui serait concurrente. Par exemple, la Terre est ronde ou la Terre est plate. Si vous voulez, vous pouvez passer toute une vie et plusieurs générations de vie de chercheurs à définir dans quelle mesure la Terre est ronde, quel est l'élément exact de rotondité de la Terre, etc., le décrire. Bien sûr, ça, c'est améliorable, mais il faut fermement refuser à toute personne qui voudrait discuter de la question de la Terre est ronde, de la Terre est plate. Je le dis parce que c'est une croyance, par exemple, la Terre est plate, les platistes qui commencent bizarrement à ressurgir, c'est pas via Internet. Alors, quelquefois, d'une façon un peu ironique, il faut bien le dire. Et on est confronté, par exemple, avec la théorie de l'évolution, à des questions de ce genre. Il y a des alternatives intellectuelles à la théorie de l'évolution, que sont le créationnisme, la théorie du dessin intelligent. On se moquait beaucoup des États-Unis il y a quelques années en France, parce que, on le sait, là-bas, il y a une résistance, d'ailleurs statistiquement avérée. Il n'y a que 30% quand même des Américains qui croient fermement la théorie de Darwin. Alors que, je rappelle que, par exemple, en Europe, l'Église catholique, même le pape a dit que la théorie de l'évolution n'était pas qu'une simple théorie, hein. Donc, il faut bien prendre en compte ça. Seulement, on le sait, notamment chez les élèves musulmans, par exemple, parce que des sondages l'ont montré récemment, il y a une défiance intellectuelle potentielle face à cette théorie, donc c'est un enjeu pédagogique extrêmement fort.
Et Dania, sur ce sujet, oui. Sur la théorie de l'évolution et sur la remise en cause qui pourrait être faite notamment par certains élèves musulmans, ce ne sont pas les seuls, bien entendu, mais vous avez une petite recette, Daniel Favre, vous dites qu'il faut leur expliquer que bien avant Darwin, il y avait des penseurs musulmans qui évoquaient cette question de l'évolution.
Oui. Et simplement, pour compléter ce qui vient d'être dit aussi, montrer que le créationnisme, où il y a des énoncés comme ça, qui ne sont pas des théories scientifiques, mais qui sont là simplement pour valider ou donner une validation ou un enrobage scientifique à des préférences. Et là, je voulais parler quelque chose que j'ai pas eu le temps de compléter tout à l'heure. C'est la prise en compte des aspects affectifs, émotionnels et des ressentis par rapport à notre pensée. Au niveau de notre cerveau, c'est emmêlé. Les neurones qui servent à la cognition, les neurones qui participent au ressenti. Et je pense que tout à l'heure, quand on a des réactions émotionnelles associées à de la cognition, c'est très fortement, ces réactions émotionnelles sont, selon le domaine, sont là, elles sont très fortes. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de la pollution augmente-t-elle, on va demander aux élèves qu'est-ce qu'on ressent par rapport à la pollution si elle augmente. Et bon, ils vont dire que c'est de la peur. Et on va dire qu'est-ce qu'elle fait la peur sur notre pensée? Est-ce qu'elle a tendance à laisser notre pensée intacte? Au contraire, elle l'amplifie, elle la diminue ou elle la transforme. Et c'est cet aspect-là qui permettra à ces élèves devenant des sujets, c'est-à-dire capables plus d'auto-réguler, qui leur permettront à ce moment-là d'avoir du recul par rapport à ce qu'ils éprouvent ou ce qu'éprouvent les autres, et de pas se faire emballer dans des sortes de transes hypnotiques, parce que quelqu'un affirmait très fort avec des arguments et on voit plus le reste.
Vous qui avez beaucoup travaillé justement sur le cerveau et sur les fonctions du cerveau, Elena Pasquinelli, qu'est-ce que vous en pensez?
Non, c'est clairement une question très importante, celle du respect du vécu émotionnel de l'élève et du fait qu'on sait très bien qu'il y a des questions qui fâchent. Et quand il y a des questions qui fâchent, c'est des questions qui braquent. C'est la raison pour laquelle je pense qu'opposer, par exemple, deux idées, hein, on ne va pas parler de théorie, mais une théorie comme celle de l'évolution et d'autres idées que l'enfant très, très normalement et naturellement apporte à l'école, qui peuvent être celles de la famille, celles de la religion, celles de ses propres intuitions, les opposer en disant c'est nécessairement faux ce que tu dis parce que j'ai une théorie qui est nécessairement correcte, ne peut que susciter une réaction émotionnelle, pas une réaction rationnelle, mais une réaction purement émotionnelle. Je garde ce qui est à moi parce que c'est à moi, j'y tiens.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut éviter justement d'aborder ces grandes questions-là?
Non, je pense pas. Je pense, mais je tiens beaucoup à cette idée des outils, et j'ai peut-être un biais scientifique très très fort, hein, et pour les outils
c'est
scientifiques
impossible.
Je pense que non, mais pas du tout, on les a tous les biais, hein. Là aussi il faut se décomplexer, on a tous des biais, y compris des biais de confirmation, mais je pense que passer par les outils, ne pas opposer les théories, mais accompagner l'élève à découvrir comment les théories scientifiques ont été construites et comment on les construit, et à les faire aussi, et à chercher les arguments sans le défier, mais dire ok, allons-y, cherchons les arguments, cherchons à voir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi on est arrivé à expliquer ça de cette manière. Et si l'autre opinion est aussi puissante pour expliquer ceci et cela. Donc, les amener dans cette démarche de recherche, d'explication, d'argumentation, dire à chaque fois, il faut des arguments. Il ne suffit pas de dire, moi je pense que, si je te dis que ce bracelet est un bracelet du pouvoir qui va te rendre hyper puissant, tu dois me demander sur quelle base je t'affirme ça. Et on va rechercher les preuves de ça. La théorie de l'évolution, c'est pas si différente de ça, de cette hypothèse de mon bracelet du pouvoir.
Mais
il a aucun pouvoir, hein, mon bracelet. Désolé.
Non, je regarde du coup le bracelet.
Oui, exactement, t'as peur. Hein.
Absolument. J'ajouterais, c'est peut-être ça tout à fait crucial, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être, avec ce qui vient d'être dit, mais peut-être qu'il faut ajouter aujourd'hui quelque chose de plus compte tenu justement du scepticisme ambiant, puisqu'il faut faire aussi avec le contexte social. On sait que, par exemple, une certaine défiance par rapport à l'expertise scientifique sur un certain nombre de sujets, la théorie de l'évolution, excusez-moi, est un bon exemple. On peut pressentir qu'il va y avoir probablement, statistiquement, une défiance par rapport à cette théorie, sans être prêcheur de malheur. À mon avis, justement, la réaction émotionnelle, comme le dit bien le collègue Fabre, est absolument essentielle. Il ne faut jamais humilier l'individu, évidemment, face à vous. Ce serait stupide et contre-productif. C'est pas un rapport de force, l'éducation. Alors, je pense qu'il faut partir, à la limite, comme l'histoire de la Terre qui tourne autour du Soleil ou l'inverse, effectivement, du ressenti, pourquoi pas, de l'individu, du ressenti cognitif, et lui expliquer, et ça, à mon avis, c'est maintenant une démarche absolument nécessaire dans tous les domaines de la pédagogie, pas seulement pour la théorie de l'évolution. Pourquoi est-ce que la théorie de l'évolution, par exemple, est contre-intuitive sur certains aspects? C'est-à-dire l'accompagner, y compris dans son doute, qu'il déconstruise son propre doute. Pourquoi est-ce qu'il a l'impression que la nature fait bien les choses? Et que derrière cette nature qui ferait bien les choses, il y a peut-être une volonté. Pourquoi pas un dieu? Pourquoi pas une nature avec un grand N? Tout simplement parce qu'il ne voit pas la masse innombrable des échecs de la nature et qu'il ne peut percevoir à son niveau que les succès de la nature. Et donc son échantillon, ce que je disais tout à l'heure, son échantillon de perception va assez intuitivement le conduire, éventuellement dans un contexte culturel particulier, à une type de narration qui est fautive. Mais c'est pas la peine de lui dire qu'elle est fautive a priori, il faut l'accompagner dans les étapes qui l'ont conduite intuitivement à cette narration fautive.
Est-ce que ça peut passer aussi par l'enseignement des théories critiques de l'évolution, et par exemple du créationnisme? Ou bien est-ce qu'il faut éviter à tout prix d'aller sur ce terrain-là, au risque de mettre justement au même niveau et évolution et créationnisme?
Très sincèrement, là, j'aimerais bien dire, il y a à boire pour tout le monde, mais il faut quand même se rappeler que les heures d'un élève sont déjà très chargées, les programmes sont très chargés, il y a tellement de choses à apprendre. Si en plus on doit apprendre toutes les théories alternatives de Dembski, de je ne sais qui, de la création intelligente, enfin du dessin intelligent, etc. Non, je pense que là, ce serait vraiment trop chronophage. Il faut mettre un stop, quoi.
Si je vous ai posé la question, c'est parce que vous, dans votre livre, Daniel Favre, vous écrivez ceci: les critiques de la théorie darwinienne doivent être enseignées, elles aussi.
Oui, parce que dès le départ, il y a eu des critiques qui ont été faites par rapport à Darwin. Et à mon avis, c'est montrer finalement qu'est-ce que c'est que la science. C'est pas des gens qui sont d'accord. C'est des gens qui avancent, mais dans le dissensus, pas dans le consensus. Et c'est là, il y a quelque chose que peut-être les élèves, en tout cas, n'ont pas perçu. C'est-à-dire que ça devient une vérité quand il y a un consensus. Et ça, c'est ce que vous dénoncez, Monsieur Brunner. Que ça devienne vérité quand il y a un consensus.
Oui, absolument. Mais moi, je suis pas opposé au fait qu'une conclusion, par exemple, quand on voit la théorie de l'évolution, qu'il y ait une conclusion qui montre combien la science est un work in progress aussi. Mais je pense pas qu'il faille enseigner sur un pied d'égalité en termes de temps d'enseignement cette question-là, parce que ça risque de créer... Les élèves ont quand même aussi besoin de sécurité. C'est enseigner l'incertitude. C'est peut-être même, je dirais, la feuille la plus difficile. On passe toute sa vie à accepter, vous savez ce que disait Nietzsche, laissez venir à moi le hasard. On passe toute sa vie à accepter la possibilité qu'il y ait du non-sens, qu'il y ait du hasard, qu'il y ait de l'incertitude. C'est la chose la plus difficile à laquelle on peut faire face. Donc je pense qu'il faut initier peut-être les jeunes esprits à cela, mais vraiment avec parcimonie.
Alors vous, oui, Daniel, oui, vous interveniez beaucoup auprès des enseignants. Est-ce que un de vos enseignements, c'était par exemple de leur dire que il faut apprendre aux élèves que les vérités scientifiques, enfin les réalités scientifiques, peuvent aussi être des vérités provisoires et que justement il y a ce processus permanent de recherche de la vérité.
Voilà, la science construit donc des modèles qui sont provisoires, qui sont approximatifs, hein, parce qu'on n'arrête pas de les modifier, de les faire évoluer. Et à mon avis, ce qui est important, c'est qu'on puisse devenir apte à faire évoluer nos représentations, nos conceptions durant toute la vie. Et pour cela, il faut donc concevoir dès le plus jeune âge une sécurité personnelle, dans le changement de représentation, de façon que on soit moins accroché à des certitudes, qu'on ait moins besoin de certitudes.
Oui, mais moi, jeune élève, je suis pas du tout en sécurité. Si vous me dites, bah voilà, ce que je t'enseigne là aujourd'hui, c'est quelque chose de provisoire, et peut-être que dans 20 ans, on en parlera autrement.
C'est pas ce que montre le jeune enfant. Le jeune enfant, il prend pas les erreurs comme quelque chose de négatif. Il apprend avec ses erreurs. Piaget disait qu'un enfant ne joue pas. Il arrête pas de résoudre des problèmes. Et avec Bachelard, et ça reprend ce que vous disiez, l'enfant construit des théories. C'est un constructeur de théories. Mais il est sans arrêt en train de les changer. Mais si à un moment donné, quand on lui fait sentir que quand il fait une erreur, il fait quelque chose de mal, en apprentissage, je parle. Alors à ce moment-là, explorer devient risqué. Il va justement ne plus aimer les situations où il y a du hasard et de l'incertitude, et il va rechercher artificiellement de la sécurité et des certitudes. Et s'il n'en trouve pas dans tous les domaines à l'école, il va en chercher ailleurs, avec les risques de dérive que vous avez évoqués aujourd'hui.
Est-ce qu'avec le module que vous avez lancé, Elena Pasquinelli, Esprit scientifique, Esprit critique, qui prendra vraiment son envol, je le rappelle, en septembre 2017,
il faut attendre 2017 pour qu'il soit prêt.
Oui. Mais en tout cas, est-ce que le statut de l'erreur, est-ce que l'erreur aura une place particulière et, disons, presque valorisée dans ce que vous allez faire avec les élèves, pour que ça soit pas quelque chose qui soit perçu comme un échec, mais comme au contraire, peut-être une façon d'avancer et d'aller vers, alors je sais pas si vous parlez de la vérité, mais...
Ça fait partie de la tradition, entre guillemets, de la main à la pâte, hein, la place à l'erreur, au sens... pas de la place à l'erreur. Là aussi, c'est...
Je rappelle, la main à la pâte, c'est la fondation
à laquelle vous appartenez. C'est la fondation pour laquelle j'appartiens, qui travaille dans le domaine de la formation des enseignants, des outils pour enseignants, pour les accompagner dans l'enseignement des sciences. Donc, l'erreur, dès le début, depuis 20 ans que la main à la pâte existe, je pense, ça fait partie de notre réflexion. Et cette idée aussi de liberté d'exploration. On ne se culpabilise pas si ton hypothèse elle est fausse, on en cherche une autre. Ça fait partie de l'esprit justement du scientifique qui cherche. Je pense que ça a une importance cruciale et qu'il faut vraiment l'instiller notamment dans cette idée des outils de la science. La science est une construction des connaissances qui n'est pas pareille aux autres. Ce n'est pas comme... un dogme religieux. Et ça ne l'est pas parce que c'est construit grâce à des outils qu'on a développés au cours de quelques milliers d'années qui nous garantissent que les conclusions auxquelles on arrive sont suffisamment proches de la réalité. On les améliore, c'est vrai. Mais bon, on est tranquille sur la théorie de la gravité comme sur la théorie de l'évolution. Mais c'est pas quelque chose, si on le donne aux élèves comme une connaissance, là, plantée, écrite, ils peuvent pas comprendre que c'est différent du créationnisme ou d'une autre dogme religieux. Si on ne donne pas les instruments, cette idée d'incertitude de la science risque de se transformer en relativisme. Et ça, je suis pas prête à l'accepter. C'est un risque énorme.
C'est ce que vous appelez le dogmatisme scientifique, Daniel Favre ? C'est-à-dire donner des éléments sans donner les outils pour les comprendre ?
Oui, voilà. Ou de dire qu'il y a eu débat alors qu'on n'est pas outillé pour faire des débats. Il y a à peu près 10 ans, en Suisse, pendant deux mois, à l'heure du journal télévisé, il y a eu des gens qui étaient contre les OGM, d'autres qui étaient pour. Et puis, ils ont entendu toutes sortes de points de vue complètement contradictoires. Mais au moins, le débat était éclairé. Et après, il y a eu une votation et ils ont voté un moratoire de 10 ans, qui doit se terminer maintenant d'ailleurs. Et en France, à la même époque, pour pouvoir parler des OGM, il fallait devenir plus ou moins délinquant, de façon à ce que les médias nous donnent un peu d'écoute. Ça prend du temps. Si on n'est pas équipé, on ne peut pas vraiment rentrer dans un débat, en particulier sur tout ce qui est socialement vif, scientifiquement et socialement vif.
Entrer dans un débat, c'est peut-être d'ailleurs d'autant plus difficile lorsqu'on est un enseignant et qu'on est face à des élèves. C'est-à-dire, quand on parle aussi de relativisme, est-ce que la parole de l'enseignant vaut exactement la même chose que la parole des élèves ? Est-ce qu'il y a nécessité de mettre toutes les questions en débat, Gérald Bronner ?
Moi, je ne le crois pas. Je pense que de toute façon, l'éducation est fondée, il ne faut pas l'oublier, sur une dissymétrie sociale. C'est-à-dire qu'il y a un objet mental qui doit être transféré d'un cerveau à l'autre, pour le dire très très schématiquement, même si ce cerveau va l'appréhender à travers sa propre représentation et sa propre biographie. Mais je pense pas, moi je suis pas pour l'égalitarisme dans tous les espaces sociaux. Je pense que l'éducation, elle nécessite en effet une forme de dissymétrie. Mais cette dissymétrie, il n'y a pas de raison qu'elle se transforme en humiliation, comme on l'a dit tout à l'heure. Et rien n'apportera plus de sécurité à l'esprit qui se forme que l'appréhension de cette méthode, comme il a bien été dit, parce qu'en fait la science c'est simplement une méthode, encore une fois. Et donc, il ne faut pas oublier que cette méthode, elle appartient pas à l'Occident. c'est le plus précieux héritage de l'humanité. Donc ça sert à rien de se référer à telle civilisation ou telle autre civilisation. C'est quelque chose qui doit pouvoir parler à n'importe quel cerveau en formation. Donc on n'a pas de risque et il n'y a pas plus belle, je dirais, plus belle relation à l'incertitude que cette exploration du possible, mais grâce à une méthode.
Sur le rôle que peut avoir l'enseignant, je voudrais vous donner un double extrait d'un témoignage d'un enseignant, d'un prof d'histoire géo. Témoignage en deux temps. Il avait réagi aux attentats fin janvier 2015 et puis ensuite il reparlait dans Libération en mars 2016 et c'était par rapport aux théories du complot. Alors en janvier 2015, fin janvier 2015, il expliquait qu'il s'était beaucoup documenté pour être en mesure de répondre à toutes les questions qui allaient se poser autour des théories de complot qui allaient se poser par ses élèves. Et puis un an plus tard, il fait une tribune dans Libération où il fait un petit peu le bilan justement de ce travail-là. Il dit « Les élèves ne comprenaient pas pourquoi je voulais tant en parler, ça créait du stress dans la classe. Et surtout, cette méthode ne fonctionnait pas. Le problème avec les thèses conspirationnistes est que vous opposez deux pensées qui expliquent le monde. Vous avez forcément un gagnant et un perdant. Or, en tant qu'enseignant, sortir gagnant d'une joute verbale avec un élève, c'est en réalité perdre. » Mais en même temps, l'enseignant, il est bien là pour transmettre des savoirs. Donc, il ne peut pas se mettre au même niveau non plus que l'élève, Daniel Favre.
Alors, je pense qu'effectivement, il y a une asymétrie, ne serait-ce qu'au niveau des valeurs. Et s'il y avait une valeur à transmettre ici, ce serait l'idée que la science, c'est avant tout un état d'esprit ou une envie d'atteindre d'aller vers plus d'objectivité ou un état d'esprit scientifique, comme disait Bachelard. Et ça, c'est donc serait à transmettre comme une valeur. Et le but à atteindre, c'est me semble-t-il, c'est la formation d'une personne. Donc c'est pas gagner contre elle, mais lui donner plutôt les moyens de développer une pensée autonome, c'est-à-dire d'être capable de s'autoréguler au niveau de sa propre pensée. Et s'il devient capable de s'autoréguler, il va donc se sentir en sécurité, et cette sécurité lui permettra, comme quand on marche, on est prêt à remettre en question l'équilibre statique pour le déséquilibre de la marche, mais en même temps on trouve une nouvelle sécurité, des fois une meilleure, on a un meilleur moment cinétique qui nous permet d'être plus stable en mouvement que lorsqu'on est juste debout et ferme, et c'est cette sécurité cognitive qui devrait l'accompagner toute sa vie. Alors comment elle se développe, cette sécurité cognitive? Moi il me semble qu'il faut effectivement d'abord reconnaître que l'autre n'est pas absurde. Et donc, on a un postulat de cohérence qu'on applique avec les élèves, qui est de dire, par exemple, si tu penses ceci, que la Terre est plate, c'est que tu dois avoir des bonnes raisons. Et ces raisons, maintenant, elles méritent d'être explicitées. Et à partir de là, on va lui permettre de prendre conscience de ce qui l'a amené à penser ça, et quelquefois des impasses, donc de pouvoir rectifier sa propre pensée.
Est-ce que répondre au doute par le doute, c'est-à-dire quand on a la posture, enfin la stature du scientifique, la stature de l'enseignant, c'est quelque chose qu'il faut éviter, ou bien est-ce que le fait de montrer qu'on doute soi-même, ça peut aussi aider ceux à qui on s'adresse à remettre aussi peut-être en cause leur certitude?
Quand on ne sait pas, hein. C'est bien de le dire parce que c'est la réponse la plus simple et la plus propre face à un enfant qui vous pose une question. Si vous ne savez pas, inventer quelque chose sur le pouce, en plus ils comprennent quand
vous. Être un motif d'angoisse pour les enseignants de ne pas être capable de répondre.
Mais c'est un motif d'angoisse pour nous tous. Si quelqu'un t'arrête dans la rue et te demande une direction pour aller à un hôtel, t'as envie de donner une réponse. Ça fait partie de nous de chercher des certitudes et de penser à les avoir et chercher à transmettre des certitudes. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui s'apprend à gérer cette angoisse de la certitude. Je pense que de ce point de vue, je reprends ce que Gérald disait à propos de décrypter ses propres biais, les choses qui nous amènent à voir le monde d'une certaine manière. Face à ça, on a une chance, élèves et enseignants. On a les mêmes. Les biais des confirmations, les biais qui nous amènent à penser que la Terre est plate, à avoir du mal à accepter la théorie de l'évolution et à la percevoir comme intuitive. Tous ces biais, on les a tous, l'élève comme l'enseignant. On a tous plein d'intuitions qui rendent difficile comprendre la science, en faire, etc. Sur ça, l'enseignant, il peut partager cette difficulté avec l'élève. Tu vois, tu penses que la Terre est plate, mais tu sais que moi aussi, sans toutes mes connaissances, quand je me réveille le matin, que je regarde le soleil, mais moi aussi, j'ai cette impression-là. Donc, discutons de comment on arrive à déconstruire cette idée et comment on est arrivé à découvrir que moi, non, elle n'était pas vraiment plate. Mais on a les mêmes intuitions, et ça, c'est génial. Ça simplifie les choses, ça nous met sur un plan un peu plus démocratique entre élèves et enseignants.
Gérald Brunner, c'est parce que vous avez eu des enseignants comme ça quand vous étiez plus jeune que vous en êtes amené à étudier les questions que vous étudiez aujourd'hui ?
Non, enfin sans doute que mes enseignants m'ont beaucoup aidé, comme nous tous, mais je, à titre personnel, c'est parce que j'ai été traversé, je suis encore traversé par toutes sortes de biais, toutes sortes de croyances, et que je suis mon premier laboratoire, voilà. Et donc je sais bien, pour reprendre une phrase qui a été dite, qu'en effet, on a toujours des raisons de croire, mais ça ne veut pas dire qu'on a raison.
Voilà. Oui, tout à fait.
Tout à fait, ce sera la conclusion de Daniel Favre, et ça sera la conclusion de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. J'espère qu'il y aura beaucoup d'enseignants, ils seront assez nombreux chaque soir, et qui nous auront écoutés et qui peuvent lire, bien entendu, votre livre, Daniel Favre, « Éduquer l'incertitude, élèves enseignants, comment sortir du piège du dogmatisme ». C'est publié chez Duno. Merci à Gérald Brunner, à Léna Pasquinelli. Émission que vous pouvez réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez, télécharger pendant un an, commenter sur notre fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Cyril Baer, Isolte Sicard. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Jacques Hubert. Demain, faut-il confier la cause animale aux politiques ? Nous réagirons à cet appel en faveur de la création d'un secrétariat d'État à la cause animale.